Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui est vraiment au cœur du réacteur économique marocain. Un sujet qui ressemble un peu à un géant, mais un géant au pied d'argile. On va parler des TPE et des PE, les très petites et petites entreprises. Notre base de travail, c'est un dossier très complet du magazine EcoBusiness, celui du 24 novembre 2025. Et le titre, il donne le ton tout de suite. Il demande « Un Small Business Act pour le Maroc, pourquoi l'attente devient intolérable ?»
La question est posée.
Elle est posée et elle est angoissée. Parce qu'on a un paradoxe énorme. Ces entreprises, ce sont la quasi-totalité du tissu économique, mais elles n'arrivent pas à grandir. Elles sont comme bloquées. Alors ensemble, on va décortiquer les arguments de cet article pour comprendre pourquoi ce cadre, cette loi, est vue comme une urgence absolue. Bon, alors, allons-y. Pour bien saisir de quoi on parle, le dossier nous donne d'abord des chiffres. Et franchement, il donne le vertige.
Ah oui.
On nous dit que plus de 98% des entreprises au Maroc sont des TPE ou des PE.
C'est la quasi-totalité, en fait.
C'est ça. Ce n'est pas juste une stat, c'est la boulangerie du coin, le petit artisan, la boîte de service. Et tout ensemble, elles emploient 56% de la main-d'œuvre du secteur privé.
C'est colossal, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'emploi dans le pays. On a l'impression d'une armée, comme vous disiez. Mais... Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. Elle met tout de suite ce chiffre en face d'une réalité beaucoup plus sombre.
Oui.
Malgré ce poids, leur contribution à la richesse nationale, à la valeur ajoutée, elle reste dérisoire. Et ça, ce n'est pas un paradoxe, c'est vraiment le symptôme d'un blocage. Ces entreprises, elles se créent, elles emploient un peu, mais elles stagnent. Elles sont comme prises au piège.
Et le dossier est très clair sur les raisons de ce piège. Il décrit un vrai parcours du combattant au quotidien. On retrouve les grands classiques.
J'imagine, l'accès au financement.
En plein dans l'île. Un accès au financement qui est quasi mission impossible. Des lourdeurs administratives, on n'en parle même pas. Et bien sûr, la concurrence de l'informel qui fausse tout.
Et pour que ça soit bien concret, l'article donne une statistique qui m'a personnellement glacé le sang.
Laquelle ?
Seulement 0,2% des micro-entreprises réussissent à passer au statut supérieur. 0,2.
C'est rien du tout.
C'est terrible, non ? Ça montre qu'il y a un plafond de verre ou plutôt un mur en béton qui les bloque. Et ça a des conséquences directes. En 2024, le chiffre est de 15 658 défaillances d'entreprises. Une hécatombe silencieuse, quoi.
C'est... Le constat est clinique. Le système ne marche pas. Et donc, face à ça, l'article avance la solution, ce fameux Small Business Act. Si je comprends bien, l'idée, c'est pas juste une petite aide de plus. C'est de bâtir un cadre complet, une sorte de boîte à outils pour tout régler en même temps.
C'est exactement ça. C'est un changement de philosophie. Fini les mesurettes éparpillées. On parle d'une politique intégrée qui s'inspire de ce qui marche ailleurs, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou même en Afrique. L'article l'organise autour de 5 piliers. Et le premier, sans surprise, c'est le nerf de la guerre.
L'argent.
L'argent.
L'accès au financement, le problème qui revient tout le temps. Mais la solution, ce n'est pas juste de dire aux banques « Allez, prêtez plus, j'imagine ».
Ah non, ce serait trop simple. C'est bien plus subtil. La proposition, ce qui est puissant, c'est qu'elle veut changer la nature du risque.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'au lieu de laisser la petite entreprise seule face à la banque, on partage le risque entre l'État, des investisseurs et les banques. Et pour ça, il y a plusieurs outils. On parle par exemple des fonds de quasi-fonds propres. C'est un outil très malin. En gros, on injecte du capital dans l'entreprise, mais pas comme une dette classique.
D'accord.
Ça renforce ses fondations sans l'alourdir, ce qui est vital pour ces structures qui sont déjà fragiles.
C'est une approche intéressante. Renforcer avant de demander de construire. Mais le dossier va plus loin. Il parle même d'une transformation d'une institution.
Oui, et ça c'est peut-être l'idée la plus forte du dossier. Transformer la Caisse Centrale de Garantie, la CCG, en une véritable banque publique d'investissement.
Ah oui, quand même.
Son rôle ne serait plus seulement de garantir des prêts, mais d'investir directement dans les projets, d'être un partenaire. On parle aussi de développer le crowdfunding. Et bien sûr, de renforcer le rôle de l'État comme garant pour rassurer les banques.
Attendez. Transformer la CCG, c'est une idée énorme. Est-ce que l'article aborde le risque que ça devienne une nouvelle usine administrative ?
C'est une très bonne question, et l'analyse insiste là-dessus. Ça doit s'inspirer des meilleures pratiques, comme la BP France par exemple, avec une gouvernance indépendante, des objectifs clairs. Le but, c'est l'agilité. L'impact, pas un guichet de plus.
D'accord. Alors, imaginons. Elles ont l'argent. Mais l'argent, ça ne vous apprend pas à gérer, à faire du marketing. C'est là qu'intervient le deuxième pilier, j'imagine, l'accompagnement non financier.
Précisément. L'idée, c'est de créer un écosystème. Ça passe par des incubateurs, des pépinières, mais le point crucial, c'est la formation. Beaucoup de ces entrepreneurs sont des techniciens hors pair.
Mais de mauvais gestionnaires.
Voilà. Le déficit de compétences en management, en marketing digital, il est criant.
Et sur ce point, l'article donne un exemple concret qui montre que ça peut marcher, non?
Oui, et c'est un très bon exemple. Le partenariat entre GoMyCode, une plateforme de formation au numérique, et Chari, une start-up marocaine. C'est une montée en compétences ciblée qui répond à un besoin immédiat. Le Small Business Act devrait financer ce genre de choses à grande échelle. Et puis, il y a la paperasse, le cauchemar de tout entrepreneur. La proposition d'un guichet unique où on trouve des conseils juridiques, fiscaux, c'est du bon sens. Ça libérait une énergie folle.
D'accord, donc elles sont financées, elles sont formées, mais il leur manque le plus important.
Les clients.
Voilà, les clients, surtout des plus gros clients. Comment on fait pour qu'elles accèdent à de vrais marchés? C'est le troisième pilier.
Exactement, l'accès au marché. L'analyse propose deux voies principales. La première, la commande publique.
Un marché gigantesque.
Des milliards de dirhams. Mais aujourd'hui, c'est une forteresse pour les TPE. Trop complexe, trop d'exigences. La proposition est donc radicale. Des quotas.
Ah.
Réserver un pourcentage de ces marchés publics aux petites entreprises.
Je comprends l'idée, mais est-ce qu'on ne risque pas de perdre en efficacité? Si une grosse entreprise peut faire le travail moins cher, est-ce que ce n'est pas le service public qui en pâtit? Qu'est-ce que l'article répond à ça?
C'est le débat classique. Mais la réponse du dossier est de voir ça comme un investissement, pas une dépense. En leur donnant accès, on les fait monter en gamme, on les structure. À long terme, on crée un tissu d'entreprise bien plus compétitif.
C'est une vision stratégique.
Oui. Et la deuxième voie, c'est l'international, l'export.
Mais ça, pour une TPE, ça paraît être une autre planète. Les normes, la logistique.
C'est pour ça que la loi prévoirait des fonds d'accompagnement, pour financer les certifications, les études de marché. Et on a la preuve que ça marche.
Ah oui.
Une brève dans le même magazine parle de l'initiative Power Export pour les artisans. Résultat, plus 14% d'exportation à fin juillet 2025. Quand on accompagne, ça suit. C'est presque mathématique, quoi.
On arrive aux deux derniers piliers qui sont tout aussi importants, j'imagine. D'abord, la digitalisation et l'innovation. Le passage obligé.
Incontournable.
Est-ce qu'on parle juste de donner une subvention pour un ordinateur ou ça va plus loin?
C'est beaucoup plus profond. C'est une transformation culturelle. Bien sûr, il y aurait des incitations fiscales pour s'équiper. Mais le cadre viserait surtout à encourager l'innovation, avec le crédit d'impôt recherche par exemple, et l'idée de créer des hubs régionaux où les TPE, les universités et les grandes entreprises se parlent. L'objectif, c'est de passer de la sous-traitance à la création de valeur.
Et enfin, le dernier point, le plus sensible peut-être, l'environnement des affaires. Parce que tout ça est formidable, mais si le terrain de jeu est truqué, rien ne marchera. Je pense à l'informel, bien sûr.
C'est la base de tout, le socle. Pour que ça fonctionne, il faut que les règles soient les mêmes pour tous. Et ça passe par deux choses.
D'accord.
D'un côté, rendre le formel plus simple et plus attractif. Baisse de l'impôt, statut fiscal ultra simplifié, tout digitalisé. De l'autre, rendre l'informel moins tolérable. Pas par la répression, mais en montrant les avantages du formel. Protection sociale, accès au financement, au marché. Et ce qui est intéressant, c'est que le dossier montre bien que le Maroc ne partirait pas de zéro. Il y a des exemples qui ont fonctionné ailleurs.
Oui, il cite le Sénégal.
Le Startup Act du Sénégal en 2020, celui de la Tunisie en 2018, même l'Italie en 2012. L'idée, c'est de s'inspirer, d'adapter ce qui a fait ses preuves.
Et le dossier se termine sur un point crucial, une sorte de condition pour que tout ça ne reste pas lettre morte.
Absolument. Et c'est peut-être le paragraphe le plus important, le suivi et l'évaluation. Une loi comme ça ne peut pas être votée et puis oubliée.
Non, l'économie bouge trop vite.
Exactement. Il faut donc, dès le départ, des indicateurs de performance. Public, clair, combien d'emplois créés? Quel est le taux de survie à 5 ans? Est-ce que les crédits ont augmenté? Ce suivi permettrait d'ajuster le tir en permanence. C'est un processus vivant.
Donc, si on résume, le message de fond, il est limpide. Ce Small Business Act, ce n'est pas une dépense. C'est un des meilleurs investissements que le pays pourrait faire. Il faut arrêter de voir les TPE comme un problème social, mais les voir pour ce qu'elles sont. Le plus grand gisement de croissance et d'emploi.
C'est exactement ça. Et cette urgence, elle est encore plus forte quand on la met en perspective avec le reste de l'actualité du magazine.
Par exemple ?
Par exemple, on lit que le dirham se déprécie face au dollar. Pour une TPE qui importe, c'est un coup dur. Mais pour une TPE qui exporte, c'est une opportunité de compétitivité incroyable.
Ah oui, bien vu.
Le Small Business Act, ce serait justement l'outil qui permettrait à plus d'entreprises de saisir cette opportunité au lieu de la subir.
C'est un excellent point.
Et il y a un autre signal. On apprend que le géant du BTPS GTM fait une entrée en bourse énorme. Ça prouve que le marché financier mature, qu'il y a de l'argent. Mais aujourd'hui, cet argent ne va pas au TPE.
Il y a un mur entre les deux.
Un mur. Et le Small Business Act, avec ses fonds, ses garanties, il construirait des ponts pour que cette épargne finance l'économie réelle. Et puis, il y a ce budget citoyen pour 2026 qui montre une volonté de transparence. C'est cette culture de la transparence qu'il faut pour piloter une politique aussi ambitieuse.
La conclusion est donc claire. Tous les signaux sont là. Les solutions existent, les exemples aussi. Comme le dit l'article, la balle est dans le camp des décideurs. Le retard accumulé ne peut plus être une excuse.
Et pour finir, j'aimerais qu'on garde une dernière question en tête. Le dossier se concentre beaucoup sur les bénéfices économiques. C'est normal. La croissance, l'emploi. Mais il y a une dimension qu'on ne chiffre pas. C'est le coût social, le coût humain de l'inaction. Si 98% des entreprises, c'est-à-dire des millions de personnes et leurs familles, se sentent structurellement abandonnées, quel impact ça a sur la confiance ? Sur l'envie d'entreprendre. Et au final, sur la cohésion sociale du Maroc de demain.
C'est une question essentielle.
C'est une question bien plus profonde qu'elle n'en a l'air.